Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Les ministères doivent rendre leur copie aujourd'hui pour expliquer à Bercy comment ils vont trouver les fameux 10 milliards d'euros d'économies exigées par le décret d'annulation de crédit qui a été publié au journal officiel. Les principaux postes concernés sont de très très loin écologie et développement durable pour plus de 2 milliards d'euros. Après travail et emploi pour plus d'un milliard d'euros, puis on trouve la recherche, l'enseignement supérieur, les engagements financiers de l'État, par exemple la charge de la dette, ou encore les aides publiques au développement. Pendant que Bercy cherche les milliards avec les dents, l'INSEE vient d'indiquer que l'emploi public a grimpé de 60 000 postes en 2023, une hausse que l'on n'avait jamais vue sur un an depuis 2013. Et puis après la dépense d'État, attendez-vous à vivre des coupes dans la dépense sociale, notamment la réforme de l'assurance chômage aura bien lieu, ça a suffisamment été répété ces derniers jours pour que plus personne ne puisse en douter. Et puis on a une illustration avec les taxis qui bloquent pour sauver leur rente. 5,5 milliards d'euros de dépenses annuelles de la Sécurité sociale pour rembourser le transport sanitaire. J'aimerais bien qu'on parle un peu, peut-être, de la fameuse proposition de loi contre la fast fashion. Est-ce que c'est du bon sens de vouloir freiner une fièvre acheteuse de produits pourris qui traversent la planète? Ou alors est-ce que c'est du pur protectionnisme à l'ancienne? Des petits sujets, si on a le temps, sur le 13e mois en Suisse, ou encore le Bitcoin qui fait mentir les Cassandres. J'en ai trop dit, on ne pourra pas tout faire. Patrick Artus, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Conseiller économique de Natixis, vous avez coécrit « De l'économie d'abondance à l'économie de rareté ». Chez Odile Jacob, Philippe Manier, bonjour.
Bonjour.
Président de Veille Solis Communication, auteur du Pangolin et l'ISF, « Comment le monde d'après nous rend tous fous » aux éditions de l'Observatoire. Gilles Raveau, bonjour.
Bonjour Monsieur Dose.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris-Saint-Denis, vous avez publié « Économie, on n'a pas tout essayé au seuil ». Oh, j'imagine que les 904 millions d'euros qu'on va demander à l'enseignement supérieur, ça vous a... Parce que vous avez une particularité, c'est que ça vous touche dans votre chair, les mauvaises nouvelles, ça je le sais. Et d'ailleurs, j'ai vu que les labos publics, CNRS, INSERM ou encore l'ANR, l'Agence Nationale de Recherche, sont à peu près désespérés, ils ont le sentiment d'être totalement sacrifiés, c'est votre avis? Vous n'êtes pas les seuls, hein. Écologie, développement durable, c'est 2 milliards d'euros.
Non, c'est vrai que c'est étonnant. Je me rappelle pas. Je voulais regarder le chiffre avant de devenir le budget total d'enseignement supérieur.
Ah, j'ai pas regardé, mais
je crois qu'en proportion on doit être le ministère. Donc je rappelle aux auditeurs, parce que c'est quelque une information qui a du mal à rentrer dans les têtes, c'est que il y a une séparation en France entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Ce n'est pas le même ministère, et que donc le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire en gros les universités et les laboratoires type CNRS, INSERM, INRAE, etc. Donc c'est 900 millions en moins, et je pense qu'en proportion du budget total, on doit être les plus touchés.
Non, alors ça, non, je peux vous le dire. Non, les plus touchés, c'est clairement écologie, 10% du budget 2024. Ouais. Et on en a un qui est à 9,9%. Alors de mémoire, c'est tout ce qui est jeunesse et affaires sportives.
Ouais, ok, bon, bref.
Non, vous n'êtes pas les plus.
Bon, on est médaille de bronze. C'est déjà ça.
Bon.
Je vais parler de moi, comme d'habitude, excusez-moi.
Pas trop long, hein, mais
j'imagine. Deux secondes. J'ai un compte Twitter qui est suivi par 60 000 personnes.
Oui, d'ailleurs, je trouve que sur Twitter, vous êtes plus trash que quand vous venez ici.
Non, je me suis beaucoup calmé.
Si, vous êtes plus dur sur Twitter que quand vous venez devant le micro.
Je sais que vous ne regardez plus les tweets, monsieur Dose,
si,
vous avez bien raison. Je me suis beaucoup calmé. Bon, j'ai 60 000 abonnés, j'ai des milliers d'universitaires qui me suivent.
Oui.
J'ai fait un appel très sérieux en disant bon, les gars, on a un emploi, un des plus protégés au monde. On nous massacre. Est-ce qu'à un moment, on va arrêter de se faire humilier? On est humilié au quotidien. J'ai pas de bureau dans mon université. Les murs s'effondrent. Il n'y a pas d'électricité un jour sur deux. Nous sommes humiliés au quotidien. C'est une profession qui est soumise comme il n'y en a pas d'autres. Et donc, j'ai dit très sérieusement, est-ce que ça vous dirait pas que, un peu, à un moment, on ait un minimum de dignité vis-à-vis de nous-mêmes et qu'on fasse quelque chose comme les agriculteurs, comme les infirmiers, comme les gens qui se bougent pour de vrai, parce qu'ils ont un sens, une éthique de leur métier.
Donc un brassard en grève ou alors un tracteur
Non, des
ou
vraies
alors
choses, c'est-à-dire aller bloquer des ronds-points, envahir BFM, entarter Bruno Le Maire. Enfin, je veux dire, il y a mille choses qui sont faisables. Non, je suis très sérieux, évidemment. Ce qui se passe, évidemment, gravissime. Nous, encore une fois, et pourquoi on bouge pas, en fait, la réalité? Pourquoi on bouge pas? Je vais faire plaisir à Philippe Manière. C'est parce qu'en fait, il touche pas à nos salaires. C'est qu'en fait, mes enseignants-chercheurs, mes collègues, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe, je vais vous dire la vérité. Et que dans les couloirs, de quoi on parle? Du prochain colloque, j'ai un papier à rendre, j'ai ça à réviser, oh mon Dieu, je suis stressé, j'ai un référé qui m'a dit qu'il fallait que je change trois lignes. Ouais, ok, les gamins, ils crèvent, ta fac, elle s'effondre et jamais tu bouges. Donc, j'ai fait ce message sur Twitter. Combien de réponses, même en message privé, j'ai eu des collègues?
Que dalle.
Zéro. Voilà. Donc, ils ont ce qu'ils méritent. Et donc, je dis à Bruno Le Maire, continue, Bruno, vas-y, 900 millions, c'est que le début, mais continue, vas-y, continue.
Bravo. J'imagine Élie Cohen sur un rond-point. est-ce qu'on fait bonne ou fausse route, Patrick Artus? On sent que ces 10 milliards sont arrivés d'un coup, sans prévenir. On n'aura pas la croissance. On nous sort un décret publié au Jean-Luc Fichet. Il faut moins de 10 jours pour que les ministères soient obligés de rendre leur copie. Une espèce de sentiment d'urgence incroyable. Et est-ce qu'on fait pas fausse route? Parce que comme on le rappelait avec notamment François Eckhall, si on prend la nouvelle, le nouveau mécanisme de stabilité et de croissance européen, on n'est pas en théorie obligé de se faire harakiri sur des quantités de dépenses en plus dans des... Enfin, quand je vous cite écologie, développement durable, emploi, travail, emploi, recherche, enseignement supérieur, c'est pas les parcs et jardins, quoi.
Alors, faut voir d'où ça vient. Ça vient des mauvaises nouvelles sur la productivité.
Ne l'explique à Paris.
En 2023, la productivité a reculé encore de 0,4% en France. La productivité du travail. Et on est à 6% de baisse de la productivité cumulée depuis 2019. Et donc, quand vous avez un effondrement de la productivité du travail, vous avez moindre recette fiscale. Et donc, on a en gros 6% de PIB en moins, ça fait 3% de déficit public en plus. Donc, tant que la productivité du travail ne se redresse pas, on aura un problème de finances publiques continuel. Alors, la réponse par la baisse des dépenses, et en particulier par la baisse des dépenses d'avenir, comme vous citiez, les ministères concernés, donc c'est la recherche, c'est l'écologie, c'est l'emploi, etc. Et je crois extrêmement défavorable, parce que on va déclencher un processus cumulatif. On va avoir moins de dépenses d'avenir, donc on va avoir moins de PIB, mais pas seulement instantanément, on va avoir moins de PIB durablement, et on va avoir encore moins de recettes fiscales, et du coup, il va falloir qu'on remette une couche sur la baisse des dépenses.
Je traduis, moins 10 milliards égale moins 10
milliards,
croissance.
Ça fait 10 milliards de baisse des recettes, des recettes fiscales. Ça fait ex post, compte tenu de l'effet sur la croissance, à peu près 5 milliards de déficit public en moins. Donc, si vous voulez gagner 10 milliards de déficit public, il va falloir doubler la baisse des dépenses. Et donc, c'est un truc qui s'appelle le multiplicateur budgétaire. Et c'est d'autant plus vrai que vous avez des dépenses qui dynamisent l'économie, quoi. Je crois qu'il aurait fallu envisager une autre stratégie, qui est la stratégie des Américains. Qui est de dire, on va pas couper les dépenses publiques, on va continuer nos programmes de dépenses d'avenir, l'Inflation Reduction Act, le CHIPS Act, etc. Ces dépenses d'avenir vont avoir un effet positif sur la productivité et sur la croissance.
Et peu importe le
déficit. Et les nouvelles règles européennes, si on fait ces dépenses d'avenir et si on fait des réformes, nous donnent 7 ans pour faire baisser la dette publique. Donc on avait le temps. Et alors je crois que le sentiment de panique, il est plutôt financier. Il n'y a aucune réaction des marchés financiers négative à ces mauvaises nouvelles sur le budget, mais le ministère des Finances s'inquiète du rating de la France. Aujourd'hui, on a moins de 50 points de base d'écart de taux d'intérêt à 10 ans vis-à-vis de l'Allemagne. C'est pratiquement le plus bas historique. Donc, il n'y a même pas de signe sur les marchés financiers qui est une inquiétude. Donc je crois que c'est une mauvaise stratégie parce qu'elle va imposer de sans arrêt recommencer à couper les dépenses.
Là, c'est le social, on va en parler. J'ai un auditeur qui m'écrit un truc qui va vous énerver, Gilles Raveau. Bon, je pense qu'il dit, moi, je veux bien être humilié à 6 000 euros par mois, mais là, je...
Je suis à 3 000, mon ami.
Bon. Pour 5 heures de cours, ouais, d'accord. Philippe, parce qu'en plus, oui. On apprend qu'on a fait 60 000 recrutements dans la fonction publique
oui,
en 2023.
Oui, voilà, c'est ça. Alors,
je ne sais pas comment on fait. Moi.
Non, d'abord, sur la productivité qui a justement été abordée par Patrick Artus. Alors, on tremble toujours, quand on est sur le même plateau que Patrick Artus, de donner l'impression qu'on nous ferait une leçon d'économie, parce que ce serait vraiment pas de circonstance. Mais comme Patrick le sait mieux que quiconque, une des raisons de la baisse de la productivité, c'est qu'on a massivement recruté des gens qui étaient moins productifs que ceux qui étaient déjà en emploi. Donc c'est le prix à payer pour une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de retours à l'emploi, de gens peu qualifiés, à la productivité faible.
Ah oui, on a eu des créations d'emplois parce que la productivité est en déclin.
Je dis pas que ça n'a que des avantages, je dis que ça n'a pas que des inconvénients. Oui, donc cette baisse de la productivité, c'est quand vous êtes aux États-Unis, vous avez des tas de bras cassés dans l'emploi, c'est un peu contrariant quand on est client, mais enfin c'est quand même formidable pour les gens qui ont
Philippe,
un job quoi.
Mais bon. Philippe, il y a 2,5 points par an de gain de productivité aux États-Unis malgré un taux de chômage des peu qualifiés beaucoup plus bas qu'en France.
Parce qu'eux, ils ont par ailleurs des raisons de faire des gains de productivité. Oui. Mais nous, la raison pour laquelle notre productivité a décroché, c'est entre autres, je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais c'est entre autres le fait qu'on a remis dans l'emploi beaucoup de gens peu qualifiés dont la productivité est faible. Alors après, sur cette histoire de faut-il ou non tailler pour faire plaisir à l'Europe, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même une grande erreur dans le débat public, c'est de penser que la seule raison d'être un peu vertueux sur le plan budgétaire, c'est de risquer de se faire taper sur les doigts par l'Union européenne ou de déplaire aux Allemands, etc. Non, il faut quand même rappeler aux gens que c'est dans notre intérêt, à nous, qu'on ne doit pas se surendetter. Parce qu'au bout d'un moment, c'est d'ailleurs ce qui se passe exactement là, maintenant, tout de suite, notre conversation en est le témoin, si on paye trop, si on dépense trop en charge de la dette, on n'a juste plus de quoi dépenser pour des questions utiles. J'ajoute que la charge de la dette, comme la dette est malheureusement en France, c'est pas comme le Japon ou l'Italie, largement détenue par des non-résidents, c'est de l'argent qui fiche le camp. Quand on paye des intérêts sur la dette française, ça part non pas à la veuve de Carpentras, mais au fonds de pension canadien, texan ou que sais-je. Donc, il y a d'excellentes raisons de penser qu'il faut cesser de surdépenser. Ça n'est pas, encore une fois, seulement pour être dans les clous de Maastricht. Et si les clous de Maastricht se reculaient et qu'on nous disait « Bon, bah, vous, Français, vous pouvez faire des bêtises budgétaires, dépenser autant que vous voulez et accumuler de la dette sans limite », ça ne serait pas une bonne raison pour dépenser sans limite. Notre intérêt à nous est d'arrêter de faire de la dette et d'arrêter de faire du déficit. C'est pas parce qu'on nous le demande qu'il faut le faire, c'est parce que c'est dans notre intérêt. Il se trouve que par ailleurs, on nous le demande. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Donc, c'est quand même un point important. Dernier point, si vous voulez, ce dont on est aujourd'hui spectateur, c'est la différence entre les réformes structurelles et les coups de rabot, sauf qui peut.
Là, c'est du coup de rabot à l'état pur. Hein.
On a en France un problème de dépenses publiques trop importantes, bien documentées, incontestables, c'est énorme. Tous les pays du monde qui ont été confrontés à cette espèce d'impasse budgétaire qui se traduit toujours par une impasse identitaire et par une quasi-crise politique. Et il y avait des pays de droite et des pays de gauche. Pays de gauche, la Suède, la Nouvelle-Zélande. Pays de droite, les États-Unis, le Royaume-Uni, comme on sait, dans les années 80. Il y a des pays, on ne sait pas trop bien si c'était de droite ou de gauche, c'était en tout cas consensuel, le Canada. Tous les pays qui ont été dans la même impasse que nous, tous, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des mesures, ils ont pris des mesures courageuses de remise à plat de la dépense publique et de réformes structurelles de la dépense publique. Alors, c'est oui, ça a taillé.
On
ça a taillé.
Attends,
pourquoi on serait les seuls au monde à ne pas savoir le faire?
Je fais ce métier depuis bientôt 30 ans, j'ai jamais vu une réforme structurelle de l'État.
Oui, je suis bien d'accord. Mais ça,
je pense qu'on fait 60 000 recrutements en 2023, je dis,
c'est complètement fou. C'est complètement fou. Je suis d'accord avec vous, Nicolas. Mais on ne peut pas dire que les Français seraient le seul peuple au monde, le seul système politique au monde qui ne pourrait pas faire et donc ne devrait pas faire ce que tous les autres ont fait, c'est-à-dire de la réforme structurelle. Alors oui, subsidiairement, comme on fait par des réformes structurelles, on fait ce genre de truc débile, c'est-à-dire qu'on va encore enquiquiner plus Gilles sur son labo, que les doctorants seront encore plus maltraités, qu'ils font trop le camp encore plus à l'étranger, etc., etc. Tout ça est vrai, mais le fait générateur de cette bêtise qui est ce coup de rabot à 10 milliards, c'est que nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire depuis 30 ans, c'est-à-dire une réforme structurelle
bien sûr,
qui permettrait d'optimiser la dépense publique tout en réduisant le quantum.
On va pas faire les réformes structurelles en l'espace de 15 jours. Là, on est dans une espèce d'urgence de dingue.
Ah non, vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas d'urgence. Alors donc, il n'y a pas d'urgence européenne.
J'ai dit que la façon dont agit Bercy aujourd'hui traduit une forme de panique et d'urgence, comme il disait Patrick.
C'est sûr, ils ont peur de perdre leur rating.
Allez-y, Gilles Ravoux, poursuivez sur ce que vous avez en tête, je ne sais pas.
Écoutez, je ne résiste pas, je suis coquin, mais petite citation. L'austérité est une impasse. Cette austérité a mis à genoux des pays européens qui ont mis des années à s'en relever, car lorsque vous faites le choix de l'austérité, monsieur Dose, les premières dépenses dans lesquelles vous coupez sont toujours les dépenses d'investissement, l'innovation, la recherche, l'éducation, l'enseignement supérieur, c'est-à-dire celles qui garantissent l'avenir d'un pays. Bruno Le Maire, Commission économique du Sénat, 22 février 2022.
C'est vrai? Voilà. Wow. C'est douloureux.
Non, enfin, là, c'est pas de l'austérité.
Oui,
hein.
Non, mais,
la contradiction sur les choix des coupes est manifeste, mais on ne rentre pas en austérité.
Philippe, oui, c'est pas. On a 1450 ou 1500 milliards de dépenses publiques, en chercher 10, c'est pas vraiment de l'austérité.
Non.
Bah, quand même, quand on entend les propos du ministre qui est responsable du décret, quelle date, mai 2000 ?
Il y a 2 ans pile.
Waouh.
Non, mais ça, bon.
C'est pas remarqué, c'est pas la première fois qu'on voit un politique se contredire.
Non, par contre, ce que je voudrais dire, et encore une fois, moi je suis, ça fait des années, ça fait pas 30 ans, mais c'est bientôt que je viens ici, et je suis très inquiet sur l'évolution de la dette publique, puisque j'intègre le fait que, contrairement à l'immense majorité de la profession, j'entendais encore un excellent macroéconomiste sur votre plateau il y a quelques semaines nous dire, la dette publique c'est pas un problème, puisque les générations futures vivront mieux. Hein. Ça, c'est voilà, c'est ce qu'on me disait quand j'étais étudiant, c'est ce que j'ai dit au début quand j'étais un.
C'est la thèse de
Keynesien,
ça, non?
C'était Eric Heyer.
Eric Heyer.
Bon, il est évident que les générations futures vont vivre bien plus mal, hein, moins longtemps.
On n'en sait rien.
C'est l'évidence même, et ça a déjà très largement commencé. Donc, évidemment, je suis très inquiet par le stock de dette publique, puisque, de mon point de vue, la croissance ne reviendra pas. Je pense même que si la croissance était correctement mesurée aujourd'hui, avec notamment ces très fortes dégradations sur l'environnement, je ne suis pas sûr qu'on aurait vraiment de la croissance économique, encore moins de la croissance économique par habitant, puisque la population continue à augmenter. Bref, je suis très très inquiet sur la question de la dette publique. Par contre, le fait est, et là, la macroéconomie, les lois de la macroéconomie, qui malheureusement, encore une fois, ne sont pas enseignées au lycée, alors que c'est des équations très simples, de type quasiment collège, lorsque vous diminuez la dépense publique, ça s'est passé absolument partout, etc. Patrick Artus le sait ici, effectivement, je suis très impressionné de parler devant lui. Bon, les dépenses publiques, c'est des recettes privées. Quand vous payez un fonctionnaire, il y a de l'argent qui circule dans l'économie. Quand une collectivité construit une piscine, il y a de l'argent qui circule dans l'économie. C'est un fait. Quand vous diminuez ces dépenses publiques, vous diminuez les recettes privées. Donc, sauf si vous aviez, et c'est là le drame macroéconomique de la France, c'est qu'on a un stock d'épargne de dingue. Donc, sur le tableau noir de l'économiste, moi, je vous la fais revenir, la croissance, je vous fais baisser des déficits et des dettes sans problème. Il suffirait que tous nos vieux, tous nos riches, arrêtent d'accumuler et, effectivement, se mettent enfin à investir dans l'innovation, dans la recherche, etc. En termes macroéconomiques, la France est extrêmement riche, mais c'est complètement bloqué. L'argent n'est pas au bon endroit et il ne va pas au bon endroit. Je rappelle donc.
Et voilà une spécificité française.
Oui, mais là, il n'y a pas de solution. C'est de l'argent privé, les gens font ce qu'ils veulent.
Le taux d'épargne US, c'est 3, 4% du revenu dispo.
Voilà. Juste un dernier chiffre pour terminer. Ouais. Effectivement, il y a ce truc très contre-intuitif et c'est là pour ça que l'enseignement de la macroéconomie est fondamental. C'est que vous pouvez parfaitement diminuer les dépenses publiques et que votre ratio dette sur PIB augmente et augmente beaucoup. D'accord ? Et donc là, dans cette même audition au Sénat, Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Entre 2009 et 2012, il y a de l'austérité en Europe. Il y a de la vraie austérité. En Grèce, c'est un massacre total.
En Grèce, là, c'était
Que fait le ratio dette publique sur PIB dans la zone euro entre 2009 et 2012 ? Il passe de 66% du PIB à 90. À 90. On se prend 25 points de dette publique sur PIB parce que ça, c'est de la mécanique à laquelle personne n'échappe.
Patrick Artus.
Oui, je voudrais rappeler quand même quelques faits sur l'analyse. Si nous avions le taux d'emploi des pays du nord de l'Europe, la Suède, etc., et si cette hausse du taux d'emploi était consacrée uniquement à avoir davantage de recettes publiques, hein, le poids des dépenses, donc on ne dépenserait pas cet avantage en taux d'emploi en dépenses, le poids des dépenses publiques dans le PIB en France serait le même qu'en Allemagne, en Suède, etc. Donc la réalité, c'est que nous n'avons pas trop de dépenses publiques, nous n'avons pas assez d'emplois. Pas assez de gens au travail. Le problème, c'est que les recettes de l'État sont liées essentiellement à l'emploi, hein, et les dépenses de l'État sont liées à la population. Et donc si vous avez un taux d'emploi faible, effectivement, vous avez structurellement un déficit public. Donc on ne sortira du problème de finances publiques que si on fait monter le taux d'emploi. Alors le taux d'emploi a monté un peu, on est à 68% de taux d'emploi, on était à 65% en 2016, mais il est quand même 10 points, 12 points inférieur. 10 points de taux d'emploi, hein, ça fait 14% du niveau d'emploi. Hein, il nous manque 14% d'emplois. Et même si ces emplois, comme le disait Philippe, sont moins productifs, moins qualifiés que la moyenne des emplois, ça fait au moins 10 points de PIB en plus. Donc on aurait 5 points de déficit public en moins, on aurait un excédent budgétaire cette année et on aurait des marges de manœuvre.
Donc la question, c'est comment accroître le taux d'emploi.
Toutes les politiques publiques aujourd'hui devraient avoir comme unique objet de faire monter le taux d'emploi.
Bon, on peut considérer que la réforme des retraites, c'était l'un des objectifs.
Oui.
On est d'accord.
La réforme de l'assurance chômage aussi.
On va en parler justement.
Moi qui ne suis pas un grand macroniste, je trouve que ce que suggère à très juste titre Patrick, c'est quelque chose qu'il me semble ce gouvernement, ce président, ont compris plutôt mieux que leurs prédécesseurs. Alors on est loin du compte. Et puis ça ne nous dispense pas de faire des efforts d'optimisation de la dépense publique. On est tous complètement conscients qu'il y a des redondances, des agences, des machins, que 60 000 emplois publics en plus, vous le disiez Nicolas, c'est complètement lunaire. Je vous rappelle que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, alors il y avait la.
Je vais faire moins 320 000.
Il y avait l'affreux, c'était Fillon qui voulait faire moins 500 000, tout le monde disait que ça serait la fin du monde. Et Macron, qui était raisonnable, disait non, non, c'est des bêtises, moins 500 000. Moi, je ne ferai que moins 120 000, dont 50 000
donc, dans l'État.
Et, au lieu de moins 120 000, on fait entre plus 20 et plus 80 000 par an.
En 2019, on avait réussi à faire moins 20 000 et pas. Mais après, avec Covid, ça repart.
Oui, c'est ça. Alors le Covid est une excellente excuse temporaire. Mais on ne peut pas créer des emplois pour 40 ans au motif qu'il y a une crise qui ne dure pas 40 ans. Donc tout ça est absurde. Donc on a trahi une grande partie des engagements de départ. Mais je suis vraiment. Alors ce que dit Patrick est très important. C'est-à-dire que le taux d'emploi, ça doit être l'obsession. Mais comment on obtient une amélioration du taux d'emploi? En grande partie grâce à la compétitivité. C'est les entreprises qui créent des emplois. Oui, et là, on retombe toujours sur le même problème. On va voir, même s'il y a la concurrence entre
les professions. Philippe, c'est essentiellement un problème de système éducatif.
Oui, mais ça contribue à la compétitivité.
C'est à cause de Gilles.
On a dans le supérieur, on a un problème de budget. Et clairement, on dépense incroyablement moins par étudiant que tous les pays comparables. Et dans le primaire, le secondaire, etc., il y a un problème de technique éducative qui n'ont pas évolué, etc. Et puis, il y a un problème d'attitude des enfants.
C'est un ingrédient, ça n'est pas le seul.
Mais je pense que si on ne réforme pas le système éducatif, on n'arrivera pas à faire monter le taux d'emploi.
Je vous rappelle, Jean-Marc Vittori, le premier, avant 2022, qui disait « Le premier problème économique de la France, c'est l'école. » Alors, avant une réforme de l'école, on va quand même dire un mot de l'assurance chômage. Parce que là, on est vraiment sur du lourd, enfin du dur, qui va intervenir maintenant, c'est certain. Je vous donnerai quand même les 2-3 conclusions des propos tenus par Stéphane Carcillo dans l'Opinion. Il n'est pas là avec nous aujourd'hui. Je lui ai demandé de venir vendredi s'il était disponible. Voilà. Lui, en tout cas, il défend l'idée que même si on a un retournement du marché, il faut quand même aller vers cette réforme de l'assurance chômage. Et puis, vous me direz ce que vous pensez des taxis qui ont décidé de bloquer le pays pour sauver leurs 5,5 milliards d'euros de transport sanitaire dépensés tous les ans par l'assurance maladie. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, qui a coécrit de l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Philippe Manier, le président de Veille Solis Communication, l'auteur du Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qui a publié Économie, on n'a pas tout essayé. Parmi les éléments à suivre dans les rabots, il y aura de la dépense sociale, c'est absolument évident. On parlera des taxis. Possible aussi que les retraites soient sous-indexées en 2025, à laisser entendre Thomas Cazenave, même si ça n'est pas définitif. Et voilà que la réforme de l'assurance chômage arrive. Voilà ce que Stéphane Carcillo, que vous connaissez tous ici, dit dans l'Opinion. Même si le marché ralentit, la croissance ralentit, le marché de l'emploi reste tendu, il faut donc augmenter les incitations de retour à l'emploi. Malgré les précédentes réformes, le système français reste le plus protecteur. Il faut jouer sur la durée d'indemnisation, par exemple en tombant à 14 mois d'indemnisation en dessous de 53 ans. C'est la durée pratiquée en Allemagne. Mais il ne faut pas toucher au montant, dit-il. Idéalement, il faut supprimer le système de pré-retraite UNEDIC, cette retraite prépayée par l'assurance chômage à partir de 62 ans. Il faut généraliser le bonus-malus, mais ne pas le calculer en fonction de la durée des contrats, mais en fonction du coût de la séparation. Parce que la séparation d'un senior à 61-62 ans, ça coûte probablement plus cher car il a plus de mal à revenir sur le marché de l'emploi. Voilà. Et il va même jusqu'à défendre l'idée que l'assurance chômage soit aussi une assurance salaire qui va compléter pendant 2 ou 3 ans la perte de salaire d'un senior qui retrouve un job, mais un job moins bien payé qu'avant. Et il considère que la suppression de l'allocation spécifique de solidarité est une mesure de justice. Gilles, ça vous inspire quoi?
Beaucoup.
Vous allez me dire que c'est un gros méchant libéral, mais c'est un spécialiste quand même du sujet.
Non, mais ça m'inspire beaucoup trop de choses. Alors très rapidement, le premier point, c'est que je suis macroéconomiste et donc le fonctionnement du marché du travail n'est pas le premier facteur de compétitivité d'un pays. C'est même pas le deuxième, et c'est même pas sûr que ce soit le troisième. Le premier, c'est effectivement, c'est les services publics, les transports qui fonctionnent, c'est l'énergie, c'est l'éducation, c'est la recherche. Le deuxième, c'est ensuite ce qu'on pourrait appeler tout le système d'innovation, c'est-à-dire le lien entre la recherche, les entreprises, l'innovation, la recherche, tout ça. Tout ça s'effondre actuellement. C'est-à-dire qu'il faut, on le sait tous, hein, mais je me permets de le rappeler. C'est-à-dire que non seulement ça s'améliore pas, mais ça va de plus en plus mal. On le vit tous au quotidien et les indicateurs le montrent dans tous les domaines. C'est-à-dire que notre pays vit un véritable effondrement, certes au ralenti, mais un véritable effondrement. Et donc, arriver au bout du marché du travail, je vous dire la vérité, ça m'intéresse pas. Budgétairement, il y a très peu à gratter, puisque là aussi, il y a de l'inertie quand vous changez les règles, que rendre les gens pauvres, ça pose des problèmes, et que donc même le gouvernement s'est déjà dédié, puisqu'il avait dit qu'il allait supprimer l'allocation spécifique de solidarité. Et en fait, il a mangé la moitié de son chapeau, puisque cette suppression qui est absolument dingue sur le plan strictement humain, donc là, en opposition totale avec Stéphane Carcillo,
bien qu'on débatte, hein,
mais... qui lui, pour le coup, est sûrement beaucoup plus que 6 000 euros à l'OCDE. Quand vous créez de la pauvreté, ça cause des problèmes. Et donc, je termine, le gouvernement a dit que la suppression de l'ASS ne concernerait que les nouveaux entrants et non pas les gens qui y sont actuellement soumis. Encore une fois, on a un énorme problème d'efficacité de notre pays, d'augmentation du taux d'emploi. Là aussi, les réponses sont connues et je termine là-dessus. Gabriel Attal, il a dit « Attendez-vous à des décisions difficiles sur l'emploi, l'assurance chômage. » C'est l'inverse. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est facile. C'est-à-dire que n'importe qui, vous, moi, demain, vous êtes ministre, vous baissez les allocations, ok.
Il ne s'agit pas de baisser les allocations. Hein.
Non, mais réduire la durée, baisser les allocations.
C'est pas la même chose.
Bon, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, que ce soit réduire la durée et baisser les allocations, c'est facile. C'est un décret, c'est facile. Par contre.
Surtout que ça passe bien dans l'opinion, ce genre
de. Alors, voilà, il court après l'opinion, qui a basculé, tous les sondages le montrent. Très longtemps en France, on a des sondages sur des décennies, très longtemps en France, quand vous demandiez aux gens, à la population, est-ce que les chômeurs sont responsables de leur situation, la majorité des Français disaient non. Le chômeur n'est pas responsable de sa situation. Maintenant, quand vous posez cette question, la majorité des Français disent oui. Pourquoi ? Parce que la pauvreté, la précarité augmente énormément dans notre pays et que comme dans tous les autres pays, plus on est pauvre, plus on est précaire, moins on est solidaire. Grande leçon de l'histoire qui a conduit à des petites tragédies. Je vous laisse y réfléchir. Donc je termine simplement. Ce que fait Gabriel Attal, c'est honteusement facile. Ce qui est difficile, et c'est un des échecs majeurs, effectivement, de la majorité actuelle, qu'on va se trimballer pendant encore presque 4 ans, c'est l'éducation. C'est l'augmentation du taux d'emploi. Ça, c'est difficile.
Oui, ça, c'est difficile.
Et oui, là, ça demande de la vision à long terme. Ça demande du vrai courage politique. Ça demande de l'intelligence. Voilà.
C'est une réforme structurelle à même d'augmenter le taux d'emploi, vous croyez ? Alors après, la question est de savoir est-ce qu'il faut la faire maintenant, pas maintenant. Mais est-ce qu'on est sur une réforme structurelle, et ce n'est pas la première, qui peut améliorer le taux d'emploi ? Carcillo, l'idée de... L'expression est très très claire. Augmenter les incitations de retour à l'emploi.
Mais je crois que le bon modèle, c'est le modèle des pays nordiques, par exemple du Danemark. Alors, il y a déjà des choses. Il y a un travail d'Alexandra Roulet qui montre que lorsqu'un Danois perd son emploi, il n'y a aucune conséquence sur sa santé. Alors que quand un Français perd son emploi, il y a des conséquences graves sur la santé, aussi bien psychique que physique. Et donc ça ne génère aucun stress dans un pays qui a un modèle du marché du travail du type de celui du Danemark, de perdre son emploi. Parce que le niveau d'indemnité est extrêmement élevé. C'est pratiquement un remplacement à l'identique du salaire antérieur. Et parce que la personne sait qu'elle retrouvera un emploi très rapidement, parce qu'il y a un marché du travail qui tourne beaucoup, avec énormément de dépenses actives du marché du travail. C'est des dépenses de formation, de recyclage, d'apprentissage de nouveaux métiers. Et donc, il faut viser à avoir un marché de l'emploi hein, du type danois. C'est-à-dire, le chômage n'est pas un problème. Même au Danemark, on démissionne beaucoup, parce qu'on sait que si on passe par une période de chômage, d'abord on perdra très peu d'argent et on retrouvera un emploi mieux. C'est très bon pour l'économie parce que ça fait partir les salariés des mauvaises entreprises et aller les salariés dans les bonnes entreprises. Ça n'a pas de coût humain. Et alors simplement, c'est cher. Parce que d'abord on gagne pas d'argent sur l'indemnisation du chômage parce que c'est une indemnisation courte mais élevée et puis qu'il y a énormément d'argent qui est mis dans la qualification, la formation, etc. Mais c'est le modèle vers lequel. Alors le risque c'est qu'on ne fasse qu'un demi-pas vers le modèle, qu'on réduise les durées d'indemnisation. Et qu'on n'améliore pas les politiques du marché du travail pour les chômeurs, donc on n'aide pas mieux les chômeurs à retrouver un emploi.
Philippe Manière, par rapport à ça ?
Non, mais moi, si vous voulez...
Sachant que c'est le prochain coup de rabot un peu sévère auquel on va assister.
Oui, alors là-dessus, quand même, un tout petit point, j'allais dire d'ordre institutionnel, mais qui a son importance. L'accord Unédic qui a été signé par le partenaire social est tout frais. L'idée qu'on va là maintenant, alors qu'ils sont encore en train de négocier une queue d'accord, imposer... Alors que cet accord a été négocié et conclu dans le cadre qui avait été fixé par l'État. Donc il y a quelque chose, moi, je trouve, d'un peu incohérent à dire négocier de bonne foi, voilà le cadre, vous n'avez pas le droit d'en sortir. sortir. Les gars négocient, ils signent, et puis pour leur dire merci beaucoup, là maintenant on va faire une nouvelle réforme.
Avec qu'a dit Catherine Vautrin ce week-end, si ça marche pas, on reprend la main comme d'habitude.
Oui, bah c'est ça. Donc, voilà. Mais il y a un minimum de délai de viduité, ou bien alors il faut dire aux partenaires sociaux qu'on veut se passer d'eux. Mais c'est pas ce qu'on leur dit. Bon, donc
c'est ça, ce qu'on veut, mais c'est pas ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on veut, mais c'est pas ce qu'on leur dit.
Deuxième bizarrerie en termes de timing, on nous a dit que les indemnisations, l'indemnisation du chômage allait devenir variable en fonction du cycle économique. Ce qui n'est pas absurde. C'est-à-dire, ça serait contracyclique. Autrement dit, quand l'économie se dégrade, ben, on est un peu plus généreux avec les chômeurs parce qu'on sait que c'est plus difficile de retrouver du boulot. Puis quand l'économie va bien, on est un peu plus restrictif sur l'indemnisation du chômage parce qu'on dit, les gars, si vous cherchez, vous allez trouver. Regardez, l'économie est bonne. Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent, mais en tout cas, on nous a présenté ça comme ça.
Ça a été présenté comme ça.
Si on nous présente ça comme ça, si on va vous faire une réforme pour qu'il y ait une contracyclicité de l'indemnisation du chômage, alors la période dans laquelle on est de ralentissement de l'économie ne me paraît pas objectivement très favorable à la mise en œuvre d'une restriction des conditions d'accès à l'indemnisation chômage.
Là, puisque, c'est indiscutable.
Puisque mais... précisément, ce serait non pas ça serait pro-cyclique. Hein, voilà.
Donc, oui, mais...
Donc, alors, tout ça, honnêtement, est un peu du second ordre. Mais c'est pour vous dire qu'on nous raconte quand même beaucoup de gaudrioles. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est les partenaires sociaux qui ont la main ou pas? Moi, j'y suis plutôt favorable, mais je comprends que ça soit autrement. Mais on ne peut pas dire A le matin et B l'après-midi. Est-ce qu'on veut faire du contrat cyclique ou est-ce qu'on dit là, le chômage va augmenter, on va baisser l'indemnisation, ce qui est exactement le contraire? Là encore, j'ai pas d'opinion parce que je pense que ça va être un peu du second ordre, mais on ne peut pas dire aux gens A le matin et B l'après-midi. Donc moi, je suis frappé par ça. Ce qui me frappe le plus, c'est la désarticulation entre les politiques, la politique, au sens politique politicienne, mais même politique noble, c'est-à-dire la conduite des affaires de l'État, et l'analyse, la compréhension des politiques publiques. C'est un mal français général. Hein. On voit ça également d'ailleurs dans la presse, où d'un côté il y a les gens qui connaissent la politique, puis de l'autre côté il y a les gens qui couvrent les politiques publiques dans les services éco et social. Si vous parlez avec un journaliste politique, moi j'ai pas trop le temps de me penser sur le RSA au Danemark ou sur l'organisation des pouvoirs en Allemagne, parce que moi je m'occupe de la course de petits chevaux. Et donc c'est une pathologie française, cette dichotomie. D'un côté il y a les gens qui s'occupent de la politique au sens course de petits chevaux, puis d'un autre côté, il y a ceux qui s'occupent des politiques publiques, qui est quand même le vrai sujet important. Là, en l'occurrence, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est important. Patrick le rappelait, ça y sort d'une marque, mais il y a d'autres modèles. Une vraie compréhension fine, et il y a des tas de papiers qui ont été écrits par des tas d'économistes, de la manière dont les gens se comportent sur le marché du travail en fonction des signaux qu'ils reçoivent, permet de mettre en œuvre les bonnes politiques publiques.
Carcillo vous dira que la mesure la plus efficace a toujours été la réduction de la durée d'un.
Bon, alors exactement, mais j'allais y venir, si vous voulez. Je vais être brutal. Si on devait résumer 250 ans d'économie et de sociologie en un mot, ce serait incentive. En gros, les agents font en fonction des signaux qu'ils perçoivent. Donc la responsabilité des pouvoirs publics quand ils ont un rôle dans un domaine de l'économie ou de l'organisation des pouvoirs, c'est d'envoyer les bons signaux. On sait, c'est bien documenté, que les gens ont d'autant plus de chances de retrouver du boulot qu'ils cherchent vite. Et on sait aussi que s'ils n'ont pas effectivement la crainte de perdre du revenu, en particulier en début de période de chômage, ils sont plus en situation de réfléchir tranquillement à leur avenir, de s'occuper de leur formation, etc. Donc, il est évident, si on conclut de toutes ces études qui vont dans le même sens, qu'il faut une indemnisation assez élevée par rapport au dernier revenu, mais qui soit relativement courte pour que les gens soient incités à revenir dans l'emploi. Et il est évident aussi qu'il faut qu'il y ait le plus de delta possible à partir du moment où on a fini cette période d'indemnisation généreuse entre ce que vous auriez en inactivité et ce que vous pourriez trouver sur le marché du travail. Tout ça ressorti au pur bon sens. Alors après, il faut des gens qui aient le courage dans la sphère politique de comprendre et d'appliquer ce qu'on a compris dans la sphère des politiques publiques et qui fassent des trucs, c'est comme pour la fiscalité. C'est pas rocket science, simplement faut le faire sérieusement. Donc il faut une bonne indemnisation pendant 2, 3, 4 mois pour discuter, puis après il faut que ça baisse pour que les gens soient incités à retrouver du boulot, et puis s'ils n'ont pas retrouvé au moment parce qu'ils sont effectivement, objectivement, trop loin de l'emploi, alors on les indemnise à nouveau plus haut. Il y a 40 manières de dessiner cette courbe, mais elle ne peut pas être paresseuse, elle ne peut pas être linéaire. Il faut optimiser en fonction de ce qu'on sait en économie et en sociologie. Et tout ça, il faut le dire, on le sait. Donc, tant qu'on est dans ces systèmes sous-optimaux, alors que sciemment, qu'on l'est sciemment, parce qu'on sait qu'il y a des systèmes alternatifs plus efficaces, on est vraiment, à mon avis, extrêmement critiquable du point de vue du citoyen qui regarde ce qui est en train de se passer. C'est un théâtre. Il faut optimiser. On connaît les critères d'optimisation. Et là encore, il faut le faire de manière structurelle et pas conjoncturelle. On revient. C'est la même question que celle de la dette et du déficit.
Je suis d'accord quand vous dites que tout ça est parfaitement renseigné. Et là, on est...
Oui.
Il y a Sam qui me dit, Monsieur Artus a raison, les pays les plus prospères d'Europe ont l'assurance chômage la plus généreuse du continent. Et puis Sébastien me dit, il est plutôt très bon, Gilles Ravot, ce matin chez Nicolas Dose.
Plutôt très bon.
Pas très bon, mais plutôt très bon. Vous voyez, être meilleur quand même.
Non, mais je voudrais juste rajouter un truc. C'est vrai que ça, moi, c'est vrai que ça me fait bon. Ah bon, ça sert à rien de rajouter, mais ça me rend triste tout ça. Il se trouve que j'ai soutenu ma thèse en 2005, notamment sur ces questions-là.
Les questions de
De marché du travail marché en Europe travail. Et de comparaison des systèmes, voilà. Et donc, c'est vrai que ça me fait à la fois chaud au cœur et tout très triste d'entendre Patrick Artus nous dire le modèle danois. Enfin, ça fait combien de... Je sais pas, la première fois que vous avez défendu le modèle danois, quoi. C'est peut-être il y a 25 ans. Enfin, ouais, je veux dire, enfin, faut voir quand même voir ce qui se passe. La nullité, pardon, mais la nullité de nos dirigeants est quand même...
J'ai pas mal d'économistes qui considèrent qu'effectivement, on pisse tous dans un violon.
Parce que... et donc, tant qu'on y est, effectivement, à s'auto-flageller entre Français, je voudrais rajouter, parce que je pense que c'est un point très important, la très grande nullité de nos hauts fonctionnaires.
À ce point-là.
Qui n'ont pas compris, et donc je m'adresse aux jeunes là, qui vont le devenir, les étudiants, s'il y en a qui m'écoutent, l'énorme erreur qui est faite dans notre pays, et qui justement qui n'est pas faite dans les pays nordiques, c'est que nos hauts fonctionnaires n'ont pas compris que, vous l'avez très bien dit, ce qui compte dans ces politiques, c'est ce qui se passe sur le terrain.
Oui.
Et un des indicateurs, justement, qu'on regardait il y a donc déjà 25 ans, c'était le nombre de conseillers par chômeur. Qui évidemment était beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé. On parle d'un facteur 2 ou 3 à l'époque, hein. Ça s'est légèrement amélioré. D'ailleurs, Emmanuel Macron le savait, tout ça c'est très curieux. En 2017, il était nourri de ses études, il disait exactement ça. La création de France Travail, c'était exactement ça, c'était de dire on a un problème, on ne vient pas assez bien au soutien des chômeurs et au fonctionnement du marché du travail, même si on pourrait contester cette explication. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'au Danemark, non seulement les conseillers d'emploi sont plus nombreux, mais ils sont bien payés. Pourquoi ? Parce qu'un conseiller emploi qui travaille bien, il fait gagner de l'argent. Il fait gagner de l'argent au pays, à l'État, à la collectivité. Et ce que nos hauts fonctionnaires n'ont toujours pas compris en France, c'est que on ne peut pas, ni à l'université, ni nulle part, avoir des services publics qui fonctionnent bien si on n'a pas des bons travailleurs bien formés, bien payés. Et donc, pour tous les amis sur la baisse de la dépense publique, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des dépenses qu'on pourrait diminuer. Mais je voudrais quand même rappeler les chiffres de François Gérolf, notamment économiste à l'OFCE. Je vous dis ça simplement. On vit dans un pays où les jeunes sont libres de choisir leur métier. D'accord ? Ils font ce qu'ils veulent, les jeunes. Notamment les plus diplômés, évidemment. Mais tous, ils font ce qu'ils veulent. Ils détestent la fonction publique. D'accord ? Nos locaux sont dégueulasses. On a la pire bureaucratie. On a des ordinateurs qui datent de 1950. Donc ils n'ont pas envie de venir. Okay ? Mais vous avez besoin de très bons fonctionnaires. Simplement, le niveau de vie des fonctionnaires... au cours des dernières années, c'est une chute de niveau de vie de 25%. Voilà. Donc, je vous le dis simplement, vous pouvez convoquer toute la théorie que vous voulez en économie, en sociologie, etc. Tant que vous n'aurez pas des fonctionnaires vraiment bien payés, à France Travail, dans les universités, chez les instituteurs, les institutrices, vous n'arriverez à rien. Donc, vous pouvez continuer, vous pouvez chouiner. Je ne suis pas du tout pour la dépense publique. Je vous dis juste, regardez la réalité du pays, regardez l'état de nos services publics, regardez notre jeunesse. Si vous n'avez pas une forte hausse de tous ces emplois qui sont des emplois difficiles, qualifiés, on n'arrivera à rien du tout.
Juste Dominique dit merci à Philippe Manière pour sa clairvoyance et son bon sens. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Allez-y, Patrick. Je veux qu'on parle des taxis après.
Oui, non, juste un mot en réaction. Si on compare, alors ce serait très compliqué de comparer les salaires des enseignants en France et dans d'autres pays parce que ça dépend du moment de la carrière. Mais enfin, si on compare un enseignant en moyenne en France du primaire ou du secondaire et un enseignant en moyenne en Allemagne, il y a un écart de 50% sur le salaire.
Mais il y a un écart de temps de travail considérable
Et alors pourtant, les dépenses publiques d'enseignement en Allemagne sont le même pourcentage du PIB qu'en France. Et donc le problème aussi, c'est la répartition de l'emploi dans le ministère de l'Éducation entre les gens qui travaillent dans les fonctions support au ministère, etc., et les gens qui sont sur le terrain dans les
ministères. On l'a dit mille fois, ça, Patrick Artus.
C'est comme le modèle
danois qui était dans la thèse de 2005 de Gilles Ravot.
Ça change pas.
Oui, mais c'est terrifiant.
Et alors après, on constate boîtes qu'on ne peut pas augmenter les fonctionnaires et on est complètement bloqué. Et donc, il faut absolument. C'est bon pour l'éducation.
Pardon, j'insiste, il y a le temps de travail. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont. Mais bien sûr que si, dans l'éducation, regardez le temps de travail des enseignants allemands, c'est 25-30% de plus que le temps de travail des enseignants français.
Je défends.
Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est mitridatisé, mais c'est comme les vacances judiciaires. Si vous voulez, au bout d'un moment, on ne se rend absolument plus compte. Mais la générosité en temps interdit d'être généreux en argent. Vous ne pouvez pas donner aux gens 12, 14, 15, 20 semaines de vacances et les payer aussi bien que s'ils travaillaient comme tout le monde, une année moins 5 semaines de vacances, plus une ou deux semaines de RTT. Ça n'est pas possible. Et l'Allemagne, ça montre ça. En Allemagne, les enseignants travaillent bien plus.
C'est faux. Sauf que...
pas le temps de travail.
Et je pense que c'est un meilleur deal. Je pense qu'on ferait mieux de payer mieux nos enseignants et de leur demander un peu plus de temps de travail.
Votre raisonnement, il est impeccable en théorie. Il est simplement faux dans la réalité. Il y a une variable très importante que vous oubliez, que le nombre d'élèves par classe. Il se trouve, les statistiques de l'OCDE, que le nombre d'élèves par classe en maternelle et en primaire sont très supérieurs en France à ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe dans les pays nordiques, mais très supérieurs. Ce qui veut dire... Non mais, regardez juste, renseignez-vous. Il se trouve que c'est un domaine que je connais. Ce qui veut dire
moi
que
aussi,
la dépense...
Je vais me renseigner.
La dépense publique par élève, la dépense, ce que nous coûte chaque prof par élève en France, juste le prof, est très inférieur. Très inférieur. Vous avez des moyennes incroyables. En Suède, on parle de 10 enfants par classe au primaire. Au Portugal, on est à 15. En France, on est à 25-30. Non, mais je vous dis, votre raisonnement, il tenait, sauf que là, il y a cette variable que vous n'avez pas prise en compte, qui change absolument tout.
Mais Gilles, il y a aussi quand même la question soulevée par Patrick, mais je pense qu'on la posera encore après notre mort.
C'est-à-dire
qu'effectivement, on ne peut pas avoir... J'ai regardé les chiffres allemands, 51% du budget de l'école paye les profs, 49% paye la machine. En France, c'est quasiment 80% qui paye la machine et 20% qui paye les profs.
Alors bon, mais juste pour dire là-dessus, il y a
que je vérifie mon truc.
Il y a quand même plus qui va aux profs. Ouais, enfin, il y en a pas suffisamment, il y en a moins qu'ailleurs.
Ouais. Non, mais il y a un petit biais dans le calcul parce qu'en Allemagne, en fait, il y a des dépenses locales d'éducation qui sont mal prises en compte. Donc, on a un petit problème de calcul dans la statistique. Mais je redis pour satisfaire les retraités millionnaires qui nous écoutent, qui feraient mieux d'investir dans les PME qui ouvrent près de chez eux. Je rappelle qu'effectivement, Patrick Artus l'a dit.
Ça fourche à langue.
Ouais, exactement. On est coincé parce qu'on a ce stock de fonctionnaires. Donc effectivement, la solution inévitable, c'est qu'il faut supprimer le statut de la fonction publique et qu'effectivement, il faut supprimer tout un tas d'emplois avec les nouvelles technologies, etc. Voilà, c'est évident que c'est ça qu'il faut faire. Mais oui.
Vous allez vous faire interroger par Marc Vigneault de l'Opinion à nouveau, vous. On a 7 minutes. Est-ce que vous comprenez la colère des taxis? On a mis en place un système de transport sanitaire qui est très largement remboursé par la sécurité sociale. Ça coûte 5,5 milliards d'euros par an à l'assurance maladie. On leur dit, écoutez, si vous voulez garder cet avantage, eh ben, il faudrait faire du covoiturage dans le transport sanitaire. Et donc, c'est colère généralisée, notamment dans les régions, parce qu'ils vivent très largement. Vous les comprenez?
Non, mais moi, je comprends toujours les gens qui ne sont pas contents parce qu'on leur enlève des sous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une rente.
Oui, c'est une rente.
Il y a une rente qui s'est installée. Alors ça, c'est très intéressant aussi en termes de politique publique. C'est-à-dire que parfois, on fait une bêtise qui dure tellement longtemps qu'on ne peut plus la corriger. Parce que vous avez, effectivement, depuis à peu près une génération et demie, des milliards de gens qui vivent dans les régions de transport sanitaire. Quand vous discutez avec un chauffeur de taxi dans un territoire en France, il vous explique que, selon les cas, entre les 3/4 et les 9/10 de ses revenus viennent des transports sanitaires. Il y a des exceptions, je ne veux pas généraliser, mais il y a énormément du chiffre d'affaires des taxis qui est produit par le transport sanitaire. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, parce qu'à certains égards, pourquoi on est rentré là-dedans? À certains égards, c'est mieux que de payer une ambulance. Donc, l'idée, au départ, c'est de dire il vaut mieux qu'ils prennent le taxi plutôt que de prendre l'ambulance. Sauf qu'à l'arrivée, si vous voulez, vous vous retrouvez avec des tas de gens qui utilisent ça. Alors, c'est très difficile de dire non, mais parce que, en fait, certains pourraient prendre leur voiture, et c'est vrai. Certains pourraient demander à leurs proches de les amener, et c'est vrai. Certains pourraient prendre le train parce qu'ils n'ont pas grand chose d'autre à faire, et c'est pas très loin, et c'est vrai. Mais qui va décider de ça?
Ben voilà.
Personne. Et donc, à l'arrivée, vous donnez un droit absolu. Tout le monde peut dire, moi je veux être emmené en taxi, et la Sécu paye. Et quand on arrive à 5 milliards
c'est
d'euros.
Quand même lourd, et c'est lourd.
On peut comprendre que ceux qui sont en charge des finances publiques et qui voient la dérive aient envie de corriger. Simplement, si vous mettez du point de vue de celui qui est bénéficiaire de la rente depuis 15, 20, 25 ans, effectivement, il n'a pas envie de la perdre. Et donc, là aussi, c'est bien documenté. La solution, c'est de racheter la rente.
Il faut payer pour
Payer. On dit aux gars, c'est fini. Alors, soit vous faites le gros covoiturage, on regarde les économies que ça fait, puis on leur dit, on vous en laissera 20%, ou bien alors, on vous rachète vos licences, ou que sais-je. Mais on ne peut pas retirer une rente. C'est une rente qu'on leur a donnée à tort, évidemment. gouvernement. Donc ils ont tort de se plaindre intellectuellement, mais ils ont raison du point de vue, parce que la dépense publique, c'est une recette privée, comme le disait Gilles tout à l'heure. Donc il faut leur retirer ça dans toute la mesure du possible, mais en les indemnisant, puisqu'on a fait la bêtise de le laisser à penser qu'il y avait un bien fondé. Et
comme vous dites,
à leur exercice.
Quand ça dure très 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 longtemps, c'est ça foutu. Devient un avantage acquis. Voilà. C'est définitif. Patrick, cette histoire.
Non, je suis d'accord avec Philippe. La seule solution, c'est de racheter la rente. Oui. Le problème, c'est le coût d'achat. Parce que la rente est rachetée à sa vraie valeur, il n'y a aucune économie pour l'État, quoi, je dirais. Donc, ça sert à rien de la racheter. Donc,
comment tu valorises la rente
Donc, on a fait une erreur de politique économique, on ne peut pas. Et puis, les gens qui ont acheté des licences de taxi, compte tenu du fait qu'il y avait cette rente dans le prix de la licence. Donc, on ne peut pas les spolier. La spoliation du détenteur de rente, c'est très dur, quoi, je veux dire. Donc ça ne fera, c'est pas une piste d'économie en réalité pour l'État.
Allez, un mot pour terminer. Je me tourne vers vous, Gilles. Je sais que vous aimez bien ce sujet sur l'histoire de la fast fashion. Alors, un peu par principe, j'ai pris le contre-pied de Jean-Marc Daniel ce matin. Ouais. Je fais court parce qu'on a 3 minutes 40. Jean-Marc, il est arrivé en disant mais c'est du protectionnisme. Oui, c'est du protectionnisme, effectivement. Et puis, on essaye de préserver les acteurs du textile qui ont une implantation économique sur le sol de France. C'est clairement une proposition de loi qui vise des Chinois. Et moi, j'ai dit, pour être un peu... je suis d'accord avec lui, fondamentalement. Mais il y a un moment aussi, les business de Temu, de Shine, d'Alibaba, qui vendent des saloperies en polyester à 1,50€, qui traversent la planète pour venir atterrir chez des gens qui vont les porter 3 fois avant de les mettre à la benne. Il y a peut-être un moment où ça a assez duré, quoi.
Bon, je mets mon chapeau de vieux con.
Allez, 3 minutes 10 de chapeau.
Puisqu'il se trouve que c'est...
On va pas vous reconnaître.
Il se trouve que c'est les jeunes gens que je vais retrouver là tout à l'heure, avec qui je travaille 2 jours par semaine, car je fais cours quand même 2 jours par semaine, rendez-vous compte, pour mon salaire, c'est quand même... Quel sacerdoce. Je pense vraiment que, à bien des égards, les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune chance. C'est-à-dire que ils ont un instrument du diable dans les mains, qui est ce téléphone, qui était... très très bien conçu par des gens extrêmement intelligents, les meilleurs d'entre nous, les plus balèzes en maths, en sciences
cognitives. C'est un Français qui a fabriqué l'iPhone.
En psychologie,
c'est un ingénieur français, Jean-Marie Hulot, qui a créé l'iPhone en 2007.
C'est comme passage. Je crois qu'à peu près tout ce qui a été inventé de bien dans le monde est plus ou moins français.
Mais oui,
c'est la TVA.
La TVA, c'est
admirable.
C'est un prix Nobel français qui a inventé le disque dur.
Et donc, il se trouve que, alors je leur rends hommage, j'ai eu 2 étudiantes qui... on fait un excellent exposé la semaine dernière sur TikTok.
Ouais.
Et la façon dont TikTok est utilisé par les mouvements d'extrême droite, c'est absolument effrayant.
Mais là, vous avez...
Pour revenir dans ce truc-là, il est bien évident que des entreprises, on ne sait pas comment il faut prononcer, Temu,
Shine, Alibaba. Enfin, Temu et Shine, c'est les deux principales.
C'est des entreprises qui ne doivent pas exister. Enfin, je veux dire, j'ai regardé parce que, comme je lis régulièrement des articles sur BFM Business consacré à ce sujet, je reçois maintenant les notifications de Temu sur mon téléphone, donc je suis allé voir, mais allez-y.
Aussi, je suis allé voir.
Mais les prix sont absurdes. C'est-à-dire que...
Machins à moins de 1 euro.
Voilà, on vous propose des choses manufacturées, oui. Donc je sais pas, par rien, même pas des machines, dont le coût de production est zéro, dont le coût de transport doit être zéro, manifestement, qui sont quand même vendus en France, où il y a quand même quelques impôts sur ce qui est vendu en France, et vous avez des objets à 1 euro. Qui sont neufs, ça n'a aucun sens. Et donc c'est pour ça que je dis que je pense que notre jeunesse n'a aucune chance de s'en sortir, c'est qu'elle reçoit, elle est bombardée de messages, encore une fois, comparé à des gens de notre âge, qui leur dit que c'est légal, que c'est normal, que c'est possible,
c'est
que
illégal.
C'est chouette. Mais tout est là.
Mais non, mais cette proposition de loi, du coup, oui. elle va dans le bon sens.
Mais non, mais c'est de toute façon, encore une fois, le libre-échange intégral n'a jamais existé. La seule vraie exception historique, c'est le Royaume-Uni, à un moment où, au 19e siècle, ils sont tellement en avance sur tout le monde qu'ils peuvent se le permettre. Tout ça n'a aucun sens. Et donc, je veux dire, évidemment qu'il faut interdire ces trucs-là.
Le nombre de trucs que je désapprouve. Enfin, moi, je suis absolument navré par le matérialisme des temps que nous vivons, mais je suis à peu près aussi navré par ça que par les gens qui payent une montre 20 fois ou 30 fois sa valeur d'usage, ou une voiture 20 fois ou 30 fois sa valeur d'usage. Tout ça me paraît ridicule et assez révoltant.
Mais
qui suis-je pour m'autoriser à interdire à ces gens-là d'acheter une voiture très chère ou des fringues pas chères? Je ne m'autorise pas à interdire aux gens de faire des choses que je désapprouve moralement.
Ça s'appelle la
liberté.
Elle veut pas interdire cette proposition.
Elle veut faire quoi ? Taxer ?
Elle veut faire payer celui qui va. Elle veut mettre un malus. jusqu'à 10 euros par produit.
Ça va créer
acheté.
Des emplois de fonctionnaires, allons-y.
Voilà, alors, on va nous dire que le malus, c'est la plateforme qui le paye, mais enfin, ce sera le consommateur, et elle veut interdire à ces plateformes de faire de la pub.
Mais il voilà. y a un effet négatif de
le mot de la
ça.
Fin, Patrick, on a fait.
Oui, qui est la disparition des boîtes de textiles intermédiaires en niveau de qualité en Europe.
Et c'est,
un bain de sang dans le textile milieu de gamme. Quoi.
Voilà, mais il y a aussi, et c'est là où il y a un relent de protectionnisme, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a eu de l'émotion quand on a vu disparaître Camailleux, André, Koukaï, et qu'il y a une volonté, effectivement, notamment... d'aller soutenir ceux qui ont une implantation économique sur le sol français.
Mais c'est trop tard, ils sont morts.
Oui, c'est ça.
Mais non, mais c'est vrai.
Mais
c'était...
c'est ça.
Bon, on ferme, me dit-on, donc on ferme.
Alors on ferme.
On ferme voilà. tout.
On rouvre demain à 9h. Merci d'avoir été là, Patrick Artus, Philippe Manière, Gilles Raveau, à demain.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.